Bonjour.
Bonjour, les droits de douane toujours en une et cette question, que s'est-il passé lors du fameux coup de fil entre Donald Trump et Karine Keller-Souter? La presse alémanique s'en fait l'écho, elle évoque aussi un nouveau levier possible pour négocier avec Washington, le commerce de l'or qui pourrait peser lourd dans notre balance commerciale avec les États-Unis. La dermatose bovine également dans ce 12-30, toujours aucun cas détecté en Suisse et la phase de vaccination des vaches touche à sa fin dans les cantons de Vaud, de Genève et du Valais, mais ce n'est qu'une partie du cheptel qui a été vaccinée, pourquoi pas la totalité? On entendra les explications de deux vétérinaires cantonaux. Le Tour de France féminin se termine aujourd'hui avec la probable victoire finale de la Française Pauline Ferrand-Prévot. Mais au-delà du volet sportif, qu'en est-il de l'engouement? On se demandera si le cyclisme féminin fait recette. Et puis avec le point J, on se demandera ce qu'est le devoir conjugal, cette idée selon laquelle du sexe régulier est attendu quand on est en couple. Rendez-vous dans une quinzaine de minutes. La météo, temps plutôt ensoleillé ces jours et des températures qui vont gentiment grimper. Point complet en fin de journal. Bienvenue. Les droits de douane qui sont donc largement en une dans la presse alémanique de ce dimanche. Bonjour Nicole de la Pietra.
Bonjour Guillaume, bonjour à tous.
Nicole, c'est notamment l'appel téléphonique entre Karine Keller-Souter et le président Donald Trump qui occupe les journaux. Et visiblement, les versions quant au contenu de cette conversation divergent.
Oui, la Sonntag Zeitung n'hésite pas à parler, je cite, du plus grand fiasco de la présidente de la Confédération. Le Sonntagsblick rapporte que le président des États-Unis se serait senti offensé par le ton autoritaire de son homologue, une conversation qui aurait quasiment tourné au vinaigre, puisqu'au bout d'une demi-heure, la chef du SECO aurait reçu un SMS de l'entourage de Trump, lui indiquant qu'il valait sans doute mieux mettre fin à la discussion avant qu'elle ne dégénère complètement. Une version que conteste catégoriquement l'entourage de Karine Keller-Souter qui insiste sur le fait qu'il n'y a eu aucune crispation entre les deux interlocuteurs.
Les droits de douane dont on va parler encore dans un instant avec la question de l'or, mais tout autre chose à présent, des erreurs de diagnostic a priori évitables dans les hôpitaux en Suisse.
Oui, à en croire l'enquête réalisée par la NZZ am Sonntag, des médecins ignorent fréquemment les alertes des proches de patients en traitement, ce qui entraînerait parfois de lourdes conséquences. Le journal cite l'exemple tragique d'un garçon de 12 ans devenu lourdement handicapé et alors que son père avait plusieurs fois alerté les médecins, mais sans être pris au sérieux, les organisations de défense des patients reçoivent de plus en plus de plaintes et même la FMH reconnaît que des problèmes existent. Les médecins, eux, pointent du doigt la pression croissante exercée par les patients et leur demandent d'examens souvent inutiles. Mais l'hôpital cantonal de Lucerne, lui, envisage d'adopter un modèle britannique qui autorise les patients à demander un second avis médical en urgence, une mesure qui aurait sauvé des vies, rapporte l'article.
Et autre univers, celui des coachs de vie dont les méthodes sont parfois douteuses.
Alors, on garde la NZZ am Sonntag qui évoque carrément, je cite, un biotope de charlatan. Des conseillers qui veulent nous apprendre à devenir nous-mêmes, à nous initier au bain de forêt, à se faire des amis facilement ou à gérer notre colère et j'en passe. Le tout contre paiement, évidemment, un marché des plus opaques et qui n'obéit quasiment à aucune règle. En Suisse, la Fondation pour la protection des consommateurs envisage sérieusement d'agir contre ce secteur.
Votre revue de presse, merci. Nicole de la Pietra. Les taxes douanières de 39%, on en parlait, risquent de mettre l'économie suisse à genoux. Et alors que Donald Trump semble fixé sur la question du déficit commercial avec la Suisse, qu'il qualifie d'énorme, un secteur en particulier pourrait peser lourd dans cette balance commerciale, celui de l'or. Ce bien le plus exporté de Suisse avec la pharma est également exempté de taxes. Or, selon un article de la Sonntag Zeitung, des voix s'élèvent pour que cela change, Deborah Solbank.
Oui, les exportations d'or doivent viennent massivement gonfler le fameux déficit commercial américain. C'est que notre pays abrite les plus grandes raffineries du monde. Or, cet or nous vient principalement de Londres. Les lingots anglais de 12 kilos doivent être refondus pour être adaptés aux normes américaines et renvoyés sous forme de lingots de 1 kilo. Alors, ces petits lingots repartent de la Suisse vers les États-Unis, un service de transformation qui coûterait donc très cher à la Suisse et qui donne l'impression que la Suisse vend beaucoup plus de biens aux États-Unis qu'elle n'en achète. Il faut savoir qu'au premier semestre de cette année, La Suisse a exporté une quantité record de près de 500 tonnes d'or vers les États-Unis pour une valeur de 38 milliards de francs. Pourquoi de telles quantités? Eh bien, c'est l'incertitude qui règne autour des tensions géopolitiques et du futur droit de douane qui l'explique.
Et Déborah, des pistes sont donc proposées dans cet article pour corriger cette distorsion statistique.
Oui, il s'agirait de sortir l'or de la balance commerciale pour qu'elle reflète au final la réalité des échanges industriels et soit pas faussée par ce commerce de transit. Parmi les pistes évoquées, renvoyer l'or à Londres pour qu'il reparte de là-bas, ou bien taxer le secteur, ou encore changer la nature de la transaction, faire en sorte que la vente soit traitée par des banques internationales ou la BNS, la Banque Nationale Suisse. Le transfert sera alors considéré comme un flux de capitaux et plus comme un simple commerce de marchandises. Mais attention, un élément très important est celui de comprendre si l'or est vraiment compris dans ces statistiques. Contacté ce matin, un acteur du secteur explique que pour corriger ce que l'industrie considère comme cette anomalie statistique, des discussions ont eu lieu avec Berne au moment des négociations. Je cite cette source, via notre association fêtière, nous avons fait savoir au SECO que ces flux d'or devaient être exclus des calculs parce qu'il s'agit en réalité d'une devise et non pas d'une marchandise ordinaire. Donc c'est un peu la question qui vaut plus de 1000 dollars aujourd'hui. C'est aussi de comprendre, parce que le flou reste, de comprendre si oui ou non l'or est inclus dans les calculs et qui a pesé dans la décision d'imposer ces taxes douanières à 39%.
Vos explications, Déborah Solbank. Au Vatican, plus d'un million de personnes se sont rassemblées ce matin pour la messe en plein air du pape, point culminant de l'année sainte du jubilé. Parmi eux, beaucoup de jeunes pèlerins. La plupart des participants ont dormi à même le sol, sous des tentes, dans des sacs de couchage ou sur des nattes en attendant cette messe. En Australie, des dizaines de milliers de manifestants pro-palestiniens ont défilé ce dimanche à Sydney. Parmi eux, le fondateur de Wikileaks, Julian Assange, en tête du cortège. Une marche sous une pluie battante pour réclamer un cessez-le-feu à Gaza. Et sur le terrain à Gaza, un employé du Croissant-Rouge palestinien a été tué et trois autres blessés dans une frappe israélienne qui a visé le siège de l'organisation à Khan Younes. C'est ce qu'annonce ce matin le Croissant-Rouge palestinien. La dermatose bovine progresse toujours en France voisine. Quatre nouveaux foyers ont été détectés la semaine dernière en Haute-Savoie, juste à côté de la Suisse. La Suisse où il n'y a toujours aucun cas. À Genève, Vaud et en Valais, l'opération de vaccination lancée pour les vaches est quasiment terminée. Ça représente en tout près de 3500 bovins, mais ce n'est qu'une partie du cheptel total. D'où cette question d'analyste Ramsauer. Vu la situation, pourquoi ne pas vacciner toutes les vaches?
La stratégie actuelle de la Suisse est de créer une ceinture immunitaire, c'est-à-dire faire une sorte de barrage vaccinal de 50 km aux abords des régions touchées. Globalement donc un cordon sanitaire aux frontières de la Haute-Savoie afin d'éviter que l'épizootie se propage plus loin. Genève, entièrement dans ce périmètre, a donc vacciné toutes ses bêtes, ce qui n'est pas le cas de Vaud et Valais. Cette stratégie de cordon sanitaire permet d'agir vite tout en gardant une visibilité sur l'évolution de la maladie, une traçabilité comme l'explique Giovanni Peduto, vétérinaire cantonal vaudois.
Si on veut suivre la dynamique de propagation du virus, on a tout intérêt à savoir quelles bêtes sont vaccinées et lesquelles ne le sont pas. Et si on sait quelles bêtes ne sont pas vaccinées et qu'on a un foyer parmi ces bêtes, on sait que ce n'est pas une réaction vaccinale, mais bel et bien un foyer. Donc on aura beaucoup plus de lisibilité en ayant une vaccination sur un périmètre connu et restreint.
La vaccination de masse aurait également d'importants coûts économiques car lorsque les bêtes d'une zone sont vaccinées, cette zone est automatiquement surveillée et circonscrite selon le vétérinaire cantonal valaisan Eric Kirchmeyer.
Ça impliquerait des restrictions de mouvements qui sont sévères, hein, quasi une paralysie de toute l'activité en ce qui concerne les mouvements d'animaux, les répercussions commerciales, également en particulier par rapport à l'export. C'est pour ces raisons aussi qu'on applique maintenant une stratégie qui est ciblée, puis qui est évolutive en fonction de la situation épidémiologique actuelle.
Les zones de vaccination resteront encore sous surveillance pendant des mois. Pour l'instant, la Suisse se bat sur cette stratégie de ceinture vaccinale, mais cela pourrait changer si la situation devait se détériorer.
Dianalyse Ramsauer, merci. À Briens, dans les Grisons, la situation s'améliore. Il n'y a plus de danger immédiat d'éboulement ou de coulée de débris sur les voies de circulation situées en contrebas du village. La commune d'Albula a donc levé une partie des mesures de sécurité ce midi. Les interdictions d'accès pour les cyclistes et les piétons sur les routes cantonales nationale concernée et le sentier de randonnée sont désormais levés. L'interdiction d'accès reste par contre en vigueur à Briens et dans les environs. Du sport à présent, du cyclisme et la dernière étape du Tour de France féminin. Cet après-midi, elle emmènera les coureuses jusqu'à Châtel. 124 km menu, Patrick Delletreau. 124 km avant le sacre attendu de la Française Pauline Ferrand-Prévot.
Oui, effectivement, elle qui a écrasé la coursière dans le col de la Madeleine et tout était préparé de longue date. Pauline Ferrand-Prévot est multiple championne du monde de VTT. Elle a été en 2014 à une autre époque du cyclisme féminin championne du monde sur route. Mais surtout, elle a été, comme elle l'avait décidé, championne olympique de VTT à Paris l'an dernier. Un peu mauvaise presse en Suisse, souvenez-vous, c'était aux Jeux de Tokyo. Elle avait accusé Yolanda Neff de l'avoir fait tomber, très mauvaise perdante en l'occurrence, il n'y avait rien à redire de l'attitude de la Suissesse. Mais bon, après ça, Pauline, comme on l'appelle partout en France maintenant, a tout fait pour préparer les Jeux de Paris. Elle les a remportés et à l'issue de ceci, elle a annoncé qu'un jour elle voulait gagner le Tour de France. Elle est engagée dans l'équipe Visma, la même que Jonas Vingegaard. Elle débute la saison en remportant Paris-Roubaix, puis elle abandonne le Tour d'Espagne et là elle s'isole pour préparer ce Tour de France. On la voit très affûtée, très amaigrie aussi et surtout très sûre de ce qu'elle fait. La course parfaite pour l'instant, à moins de craquer aujourd'hui dans les trois cols de la journée. Elle sera sacrée ce soir à Châtel.
Voilà pour le volet sportif, Patrick. Qu'est-ce qu'il en est au niveau de l'engouement pour ce Tour de France féminin? On vient de vivre en Suisse le succès populaire de l'Euro de foot. Est-ce que le cyclisme féminin fait recette?
Oh oui. Alors on va dire que c'est peut-être l'effet juillet et des vacances en France, que c'est le week-end, que c'est l'effet victoire française. Il y en a eu plusieurs dans ce tour, mais pas que. Depuis le début du tour, on voit des foules sur le bord des routes. Ce matin, j'ai fait le parcours, il y avait déjà des camping-cars dans le premier col après 30 km. Et puis alors, au sommet du col de Jouplane, qui descend sur Morzine, après où je suis passé il y a une demi-heure, et ben c'est blindé. Je peux pas dire ça autrement, c'est bondé. Le succès est réellement au rendez-vous. Pour la petite histoire, aussi, parmi toutes les inscriptions sur la route, il y en a pas mal. Au milieu des Allées Pauline, Allées les filles, il y en a une qui se démarque sur bien 150 mètres dans le col de Jouplane. Justement, il est écrit Chab pour la genevoise Élise Chabé. Et d'ici la course, il y aura encore les poids rouges de son maillot de meilleure grimpeuse qu'elle devrait remporter définitivement ce soir.
Patrick Delletreau sur le Tour de France féminin. Puis on se porte toujours du football aujourd'hui au programme avec la deuxième journée de Super League qui se poursuit. Côté roman, le Lausanne Sport se déplace à Thun à 14h. Et puis Sion accueille Lugano à 16h30 hier soir. Servette a été largement battue sur son terrain par Saint-Gall, une défaite 4-1. 12h42, vous prendrez bien un petit tapas, car oui, c'est l'heure du dernier épisode de notre série sur la gastronomie espagnole. Retour à Madrid avec notre correspondante Valérie Demont, entre deux ou trois tapas, cet apéritif très typique en Espagne.
On a une coutume ici de l'apéritif ou du pincho, on offre quelque chose avec la boisson.
Maribel, chef de la cuisine du bar Los Arcos de Ponzano, a résumé en quelques mots une habitude très madrilène, ir de tapas, comme on dit ici.
Cela peut être des olives, des chips ou des anchois au vinaigre, un bout de fromage, de chorizo, un bout de saucisse. Nous, tous les dimanches, on prépare une paella vers 13h30, 14h et on offre un peu de riz avec l'apéro. Ce serait vraiment bizarre si cette coutume disparaissait à Madrid car elle est très ancrée.
Alejandro dirige le restaurant de Charnella, quelques mètres plus loin. Quand on lui parle de la tapa, il vous raconte le vivre ensemble.
Si on a quelque chose de chouette ici en Espagne, ou du moins à Madrid, c'est notre empathie. Les gens aiment sortir dans la rue, se voir dans les bars. C'est sûrement le meilleur atout que nous ayons dans ce pays. Et la tapa est une partie importante.
Gratuite à Madrid, la tapa ne l'est pas partout comme au Pays Basque où on paie pour chaque pincho, l'équivalent des tapas. Mais en Andalousie, à Grenade, vous pouvez presque faire un repas avec quelques verres et des tapas gratuites gargantuesques. Mais au fait, d'où vient la tapa ? Almudena Becerril Villegas est historienne de la gastronomie et membre de l'Académie royale de la gastronomie. Et elle va nous surprendre, on remonte au XIIIe siècle.
Le roi Alphonse X, surnommé le sage, se rend compte qu'il y a de gros problèmes avec les commerçants qui vont de ville en ville avec leurs charrettes. Quand ces commerçants ambulants s'arrêtaient, ils buvaient beaucoup et se bagarraient énormément. Le roi a donc décidé par une loi que les bars devaient donner un peu à manger avec la boisson.
Au 19e siècle, le concept de la tapa se diffuse depuis l'Andalousie où on dénomme cet apéritif le monument gastronomique espagnol. Pour l'historienne Almudena, la tapa, ce n'est pas que de la gastronomie.
Faire la tournée des tapas est institutionnalisé en Espagne. On va au bar du quartier, là où on sait que les amis sont là. La tapas, ce n'est pas seulement pour manger, c'est anthropologique.
Au bar Fide à Madrid, José Antonio profite de sa bière et de son apéritif. Il vient au moins une fois par semaine et la tapa, c'est une philosophie de vie.
Hombre, si la tapa no me gusta.
Ah, si j'ai pas ma tapa, j'aime pas. Ne serait-ce qu'une petite élive, sinon pour boire ma bière, je reste chez moi. C'est un moment agréable de sociabilisation, je parle avec quelqu'un, j'ai de quoi lire aussi, un livre ou un journal, et je suis heureux.
Les tapas qui rendent heureux. Dernier épisode de cette série sur la gastronomie espagnole, signé Valérie Demont. On passe maintenant au point J avec cette question qu'on se pose avec Grégoire Moll. C'est quoi le devoir conjugal? Un épisode en nouvelle diffusion.
Si je vous dis devoir conjugal, ça vous évoque peut-être une espèce d'injonction sociale, cette idée que dans un couple, il faudrait qu'il y ait des relations sexuelles régulièrement. Mais en France, ce n'est pas qu'une injonction. Si on ne respecte pas le devoir conjugal, on peut être reconnu fautif ou fautive par un tribunal. En tout cas, jusqu'à tout récemment. Le 25 janvier, la Cour européenne des droits de l'homme a condamné la France dans une affaire qui met en cause cette notion de devoir conjugal. Petit rappel des faits. En 2019, une femme est jugée fautive dans un divorce parce qu'elle refusait depuis plusieurs années d'avoir des relations intimes avec son mari. C'est cette décision de justice qui a valu à la France d'être condamnée par la Cour européenne des droits de l'homme fin janvier. Au point J, on s'est demandé d'où vient cette notion de devoir conjugal. Comment est-ce que cette notion s'est invitée dans le droit français? Qu'est-ce que ça impliquait pour les époux et épouses?
Le point J avec Grégoire Moll.
Vers la fin des années 80, à l'époque, il y avait peut-être des citoyens, citoyennes suisses qui pensaient encore que les femmes mariées se devaient à une sorte de servitude sexuelle auprès de leur mari.
Marta Rocaille-Escoda est professeure en études genre à l'Université de Lausanne. À la fin de cet épisode, elle nous expliquera qu'en Suisse, avant l'an 2000, l'absence de relations sexuelles au sein d'un couple pouvait être un des éléments portés à l'attention des juges en cas de divorce. Mais d'abord, on s'intéresse à la France, qui a donc été condamnée fin janvier par la Cour européenne des droits de l'homme, la CEDH, pour un divorce prononcé au tort exclusif d'une femme qui ne voulait plus avoir de relations sexuelles avec son mari. Julie Matussi est maîtresse de conférence en droit à l'Université de Strasbourg, spécialiste notamment du droit des personnes et des familles.
Bonjour.
Je lui ai demandé comment est-ce que ce cas de divorce s'est retrouvé à être examiné par la Cour européenne des droits de l'homme.
En droit français, le divorce passe d'abord par une première instance, une seconde instance, et va rarement plus loin. Parce que le cas de divorce qui était mobilisé par ce couple, c'était le divorce pour faute, et que la faute en cause de divorce relève de ce que l'on appelle l'appréciation des juges du fond, c'est-à-dire les juges de première instance et de seconde instance qui s'intéressent aux faits. Mais ici, les deux époux, et en particulier le mari qui invoquait comme faute cause de divorce devoir conjugal, invoquait une violation d'une norme, qui est le devoir conjugal, qui semblait problématique à l'épouse, et elle est donc saisie la juridiction, la plus haute juridiction française, à savoir la Cour de cassation, pour contester cette norme, qui est le devoir conjugal. La Cour de cassation a rejeté son pourvoi, et c'est donc en tout dernier recours qu'elle a pu saisir la Cour européenne des droits de l'homme, et que le droit français s'est ainsi retrouvé analysé par la Cour.
La Cour européenne des droits de l'homme est saisie par l'épouse, hein, par la plaignante, parce que le divorce était reconnu à ses torts exclusifs. Pourquoi est-ce que le divorce était reconnu à ses torts exclusifs?
Alors, il avait été reconnu à ses torts exclusifs parce qu'elle avait manqué à son devoir conjugal, parce qu'elle n'avait pas eu de rapport sexuel avec son époux pendant de nombreuses années et s'était refusée à lui sans avoir de motifs légitimes suffisants. Puisque le devoir conjugal, en principe, admet que pour raison de santé, on puisse ne pas l'accomplir. Mais la Cour d'appel de Versailles avait estimé que les raisons de santé évoquées par la requérante en l'espèce ne justifiaient pas une période d'abstinence si longue, puisqu'il s'agissait d'une période, me semble-t-il, de 8 années.
Les termes de devoir conjugal, on ne les trouve pas dans les textes, dans le Code civil, hein, c'est juste.
On ne les trouve pas dans le Code civil. Ce qui est dans le Code civil, c'est l'article 215 qui oblige les époux mutuellement à une communauté de vie. Les juges, du fond, interprétaient cette obligation comme l'obligation de vivre ensemble et d'avoir ensemble des rapports sexuels.
Et est-ce qu'il y avait une mesure précise, en fait? Est-ce qu'il y avait une fréquence de rapports sexuels à avoir avec son conjoint ou sa conjointe pour ne pas manquer au devoir conjugal?
Non, justement, c'est là que la faute cause de divorce, qui est un manquement grave ou renouvelé aux obligations du mariage, est appréciée par les juges du fond. C'est-à-dire qu'au cas par cas, on regarde si les rapports étaient normaux, réguliers, suffisants. Il n'y a pas de chiffre, hein, de délai ou de quoi que ce soit de précis qui permette de loger tout le monde à la même enseigne. C'était vraiment l'appréciation au cas par cas des juges.
Et donc, ce manquement au fait d'entretenir des relations sexuelles régulières avec son conjoint, sa conjointe, ça pouvait constituer ce qu'on appelle une faute, c'est ça, en cas de divorce ?
Effectivement, ça pouvait constituer une faute cause de divorce. Alors la faute, pour être cause de divorce, et donc pour permettre de sortir du mariage, il faut que ce soit un manquement grave ou renouvelé aux obligations du mariage, ce qui était assez rarement caractérisé depuis une vingtaine d'années dans les décisions que j'ai pu voir, mais qu'il l'était quand même assez régulièrement, et ça l'a été en 2019.
En France, plusieurs décisions de justice ont retenu des manquements au devoir conjugal, même si ce manquement est difficile à prouver. Par ailleurs, dans son étude « Le devoir conjugal de l'obligation de consentir » qui date de 2019, Julie Matsussi a examiné une huitantaine de décisions de justice se prononçant sur un possible manquement au devoir conjugal. Sur les cas exploités par Julie Matsussi, le manquement au devoir conjugal est rarement retenu par les cours d'appel et quand il est retenu, il n'est pas la seule faute justifiant un divorce. Au moins une fois quand même, Julie Matsussi relève que le seul manquement au devoir conjugal a entraîné des dommages et intérêts. En 2011, un homme a dû verser à son épouse 10 000 euros de dommages et intérêts pour absence de relations sexuelles pendant plusieurs années, sans qu'il ait pu justifier de problèmes de santé qui l'auraient empêché d'avoir des relations intimes avec sa femme. Pour la cour d'appel d'Aix-en-Provence,
les attentes de l'épouse étaient légitimes, dans la mesure où les rapports sexuels entre époux sont notamment l'expression de l'affection qu'ils se portent mutuellement, tandis qu'ils s'inscrivent dans la continuité des devoirs découlant du mariage.
J'ai demandé à Julie Matsussi comment cette notion de devoir conjugal est arrivée dans le droit français.
Au départ, le devoir conjugal est d'inspiration religieuse et pour ce qui concerne le droit français, plus exactement d'inspiration catholique, puisque le mariage dans le droit canon est un sacrement qui est très associé au fait de fonder une famille avec la nécessité de consommer le mariage et d'entretenir les rapports sexuels par le devoir conjugal, avec l'idée d'un corps de la femme qui appartient à son époux et d'un corps de l'époux qui appartient à la femme. Notre droit n'était pas laïque jusqu'à la Révolution française et le mariage, c'était ça. Si bien que suite à la période révolutionnaire, qui a été une période trouble, lorsque le droit civil s'est de nouveau stabilisé avec l'adoption du Code civil en 1804 et que l'on a eu un droit du mariage civil dans ce Code civil, eh bien, est apparu ce devoir de cohabitation que les juges à l'époque ont interprété certainement sans que cela pose absolument question, parce que c'était culturellement, c'était la vision que l'on avait du mariage, ont interprété ce devoir comme vivre ensemble et avoir des relations charnelles ensemble. Mais c'est aussi parce que c'est une époque où la sexualité, elle était consubstantielle au couple, et particulièrement au couple marié, dont l'objectif était la famille, et donc la procréation.
Même après le Code civil de 1804, cette notion s'est perpétuée jusqu'à l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme,
oui,
de genre de fin janvier.
Tout à fait. Alors, il faut tout de même reconnaître que cette notion s'est perpétuée, mais l'idée selon laquelle le mariage impose des rapports sexuels aux époux, c'était quand même érodé. Et notamment, depuis 1984, la Cour de cassation française sanctionne le viol conjugal, ce qu'elle ne faisait pas auparavant. C'est-à-dire qu'auparavant, c'était un tout. Il y avait un devoir conjugal qui pouvait donner lieu à sanction et qui obligeait les époux à se donner l'un à l'autre. Mais ce devoir conjugal était en quelque sorte susceptible d'exécution forcée. C'est-à-dire que si un époux forçait son épouse au rapport sexuel, il ne s'agissait pas d'un viol. Il s'agissait simplement de l'accomplissement du devoir conjugal. On considérait qu'en donnant leur consentement au mariage, les époux donnaient un consentement à tout ce qui allait suivre. Et par conséquent, la notion de viol entre époux n'existait pas. Et on était quand même revenu là-dessus dans les années 80, et puis avec une loi en 2006, hein, une loi qui a même fait du viol de son épouse une circonstance aggravante. Si bien qu'on était arrivé à un état du droit où être forcé par autrui, c'était interdit, parce que le viol conjugal était interdit, mais se forcer soi-même pour respecter son devoir conjugal et ne pas s'exposer au divorce pour faute, ça perdurait. Et c'est ça qui ne perdure plus aujourd'hui avec cette décision. La Cour européenne des droits de l'homme le dit très clairement, hein, dans son Elle explique que le devoir conjugal était de nature à ôter au viol conjugal son caractère répréhensible. Donc elle cible vraiment ce paradoxe sur la notion de consentement et l'utilise comme une justification pour condamner la France.
Cette condamnation de la Cour européenne des droits de l'homme, qu'est-ce que ça a comme conséquence pour le droit français ?
Tout dépendra de ce qu'en font les autorités françaises. L'avantage du fait que c'était une interprétation jurisprudentielle, c'est que s'ils le souhaitent, les juges du fond, de première instance et de cour d'appel, peuvent dès aujourd'hui abandonner cette interprétation du devoir conjugal. Ici, on a une juridiction internationale qui s'est prononcée, une juridiction qui applique la Convention européenne des droits de l'homme, qui est une convention qui s'applique sur le sol français. Donc, aujourd'hui, les juges peuvent, et je dirais même doivent, abandonner cette interprétation. Ils peuvent le faire dès aujourd'hui sans qu'il soit besoin de modifier la loi pour cela. Ce qui n'empêche pas le législateur de se saisir de la question s'il le souhaite, mais ça peut s'arrêter dès maintenant. Et d'ailleurs, le ministre de la Justice en France s'est prononcé dès jeudi pour dire que la France va mettre son droit en conformité immédiatement avec l'arrêt de la Cour. Donc, a priori, la France, enfin les juges français vont cesser cette interprétation et on s'en tiendra là.
Le fait d'avoir cette notion en droit de devoir conjugal, est-ce que le fait que ça existe en droit, est-ce que ça a des conséquences sur l'imaginaire collectif par rapport au devoir conjugal ?
Oui, je crois que ça avait quand même une influence. Et notamment, sans parler de devoir, il y a une norme sociale qui continue d'être très présente dans les esprits. La sociologie le montre, hein, c'est que la sexualité fait en quelque sorte partie de la définition du couple. La sexualité comme une injonction sociale quand on est en couple, ça c'est quelque chose qui demeure. En fait, ce qui surprend les gens, c'est que ce soit une obligation juridique. Mais le fait qu'il y ait une injonction sociale, qu'il y ait des personnes qui se forcent un peu pour faire plaisir à l'autre, etc., ça, c'est étayé par la sociologie, ça reste extrêmement présent. Donc, quand un couple divorce, et au moment du divorce, en discutant avec les avocats, se rend compte que ça existe pour de vrai en droit, c'est-à-dire c'est pas seulement une injonction sociale, si vous voulez, ça légitimait, et ça venait renforcer cette injonction sociale. L'existence même du devoir conjugal pouvait renforcer l'idée que c'est très important d'avoir une sexualité dans le couple. Et je crois que la disparition du devoir conjugal, en ce sens, est une bonne chose.
On a parlé de la France. Est-ce qu'en Suisse aussi, le devoir conjugal s'invite dans les tribunaux ? Marta Rocaille-Escoda est professeure en études de genre à l'Université de Lausanne. Elle a contribué à une étude intitulée « Du devoir marital au viol conjugal, étude sur l'évolution du droit pénal suisse ». Selon elle, le fait de ne pas avoir de relations sexuelles au sein d'un couple n'est pas, aujourd'hui, considéré comme un manquement au mariage en Suisse. En revanche, avant l'an 2000, pour qu'il y ait divorce, il fallait qu'il y ait une faute. Et là, d'après Marta Rocaille-Escoda, l'absence de relations sexuelles était parfois mentionnée.
À travers des jugements qu'on analysait du divorce en Suisse depuis les années 60, on voit que quand on demandait à l'époque le divorce, parce que le divorce était par faute, donc il fallait qu'il y ait une faute commise par un des deux époux, il y avait aussi la question de la non-consommation du mariage, qu'on appelait à l'époque. C'était pas une cause de divorce, mais ça aidait au juge à la compréhension d'une absence de volonté de vivre maritalement. Dans les jugements divorce, il y a dans beaucoup de jugements, on voit qu'il y a ce constat qu'il y a plus de rapport sexuel depuis un moment, et pour appuyer que les couples en question, ils ont plus de vie maritale, si on peut dire, au conjugal. À partir de 2000, le divorce est par consentement mutuel. Là, on trouve plus toutes ces allégations dans les dossiers de divorce. Aussi, on a des divorces par demande unilatérale, mais il n'y a pas besoin de montrer qu'il y a une faute pour pouvoir demander le divorce. Il faut que les conjoints vivent séparés, une vie séparée de 2 ans, ou qu'il y ait une faute grave. C'est vrai qu'il y a encore la question d'une faute grave, mais c'est surtout par rapport à la question des cas de violence conjugale ou des crimes commis au sein du couple.
Merci à Marta Rocaille-Escoda. L'étude du devoir marital au viol conjugal, étude sur l'évolution du droit pénal suisse, à laquelle elle a contribué, est accessible sur Internet. J'ai mis le lien dans le descriptif de cet épisode. Merci à vous d'écouter Le Point J. Pour nous contacter, écrivez-nous ou envoyez-nous un vocal au 079 134 34 70 ou par mail à l'adresse pointj@rts.ch.
Voilà, c'était Grégoire Moll pour ce Point J en nouvelle diffusion. La météo étant plutôt ensoleillée aujourd'hui, avec toutefois le développement de cumulus le long des reliefs cet après-midi. Il fera jusqu'à 24 degrés en pleine. Demain, bien ensoleillé, malgré des voiles de nuages élevés par moments denses, surtout en matinée, maximum 23 à 26 degrés. Et puis mardi, bien ensoleillé le matin, puis apparition de passages nuageux l'après-midi, maximum 29 degrés.
Tournée romande, Antonin Scherrer.
Vous aimez la musique vivante? Eh bien, vous êtes au bon endroit. Une dizaine d'extraits de concerts enregistrés dans toute la Suisse romande par les micros d'Espace 2, c'est ce qu'on vous propose tous les après-midi en compagnie de Martin Gers et de Jan Nering. Avec au menu du jour, le deuxième trio avec piano de Brahms dans une lecture de prestige signée Nicolas Angelic, Leonidas Kavakos et Franz Elmerson. La cinquième suite pour violoncelle seule de Jean-Sébastien Bach sous l'archet de Jean-Guyen Keras à Fribourg. La cinquième symphonie de Carl Nielsen, telle qu'interprétée par l'OSR et Tommy Anderson. Et enfin, la dixième sonate pour piano de Beethoven, ciselée à Vevey, par Christian Zacharias. On lance les chevaux sur les hauteurs de Verbier, avec Johannes Brahms et son deuxième trio avec piano, en ut majeur opus 87. Une page écrite entre mars 1880 et juin 1882, et créée le 29 décembre de cette même année 82 à Francfort-sur-le-Main, par des membres du quatuor Joachim et Brahms lui-même au piano, puis rejouée à Berlin, janvier 83, et à Vienne le 15 mars de cette même année 83, par des membres cette fois-ci du quatuor Helmersberger. Il s'articule, ce trio, comme le premier, en quatre mouvements, Allegro, Andante con moto, Scherzo et Allegro giocoso. Nous écoutons Leonidas Kavakos, Franz Elmerson et Nicolas Angelic en concert donc le 29 juillet 2010 à l'église de Verbier.
Thank you. Thank you. Thank you.